pas jusque là dans la comparaison, mais néanmoins, j'aimerais quand même.
Le jeune, c'est pas Nelson Mandela, ça.
Et puis surtout, il est devenu président 4 ans après être sorti de prison, ce qui est pas le cas là, puisque il est
président. Et puis, je te coupe, il est président parce que celui qui était censé être président est en prison pour plus longtemps.
Wade, le fils Wade.
Juste pour revenir sur ce que je disais, on le dit pas assez, notamment dans le débat public ici en France. Le Sénégal est une grande démocratie. Et la manière dont s'est déroulé le scrutin pourrait nous donner des leçons ici en France, notamment aux États-Unis, quand on a vu la catastrophe que ça a été l'élection de Biden face à Donald Trump. Il y a des grandes démocraties en Afrique. Le Sénégal en est un exemple parfait.
Pour combien de temps ?
On verra. En tout cas, on a eu quand même une élection où il y a eu près d'une vingtaine de candidats, où tous les candidats au soir de l'élection ont appelé le candidat élu pour le féliciter, reconnaître sa victoire. Donc ça, c'est extrêmement important dans une démocratie. Et puis surtout, j'ai envie de dire, le Sénégal, au-delà des investissements, je suis pas totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que le Sénégal devrait exclusivement accueillir des investisseurs français ou européens, Chinois, des Russes, aillent investir en Afrique. Enfin, nous, on va investir dans plein de pays du monde. On commerce avec le monde entier. Le monde entier commerce avec nous. Pourquoi est-ce que le Sénégal devrait exclusivement travailler
pour
permettre des investissements, parce que c'est
notre intérêt.
C'est pas vous spécialement que je vise là, mais c'est l'esprit que l'on a ici en France là-dessus.
C'est l'intérêt de la France que nos entreprises aillent là-bas.
Justement, Bibi Nassiri.
Il faut qu'on commence à regarder l'intérêt des populations locales pour éviter demain de dire ils viennent trop chez nous.
Non, mais si tu écoutes, si on a tous des.
C'est pas toi que je vise.
Je suis d'accord. Mais on a tous des amis, on connaît tous des Maliens, des Camerounais, il y a plein de démocrates. C'est l'image qu'on donne de ces pays-là, en prétendant qu'ils ont besoin de la France, ce qui est faux. Et il faut faire confiance à ce jeune président qui va peut-être continuer déjà.
En tout cas, il y a une aspiration de la part de la jeunesse au Sénégal et en Afrique de manière générale. Je pense que le Sénégal peut être un exemple pour les pays qui l'entourent. Et surtout, il faut quand même qu'on garde ça en tête. L'Afrique est un pays extrêmement jeune, et là la jeunesse a joué un rôle important dans cette élection là et la fin de la France-Afrique, ce sera la fin du franc CFA.
Et ça, ça sera très bien.
Le franc CFA, la France-Afrique, ça sera très bien.
D'ailleurs, il a dit qu'il voulait revenir sur le franc CFA, donc ça, c'est génial.
On va voir si
Emmanuel Macron l'accepte. Moi, je ne comprendrais pas qu'il ne l'accepte pas, vu la politique qu'il a, etc. Il faut mettre fin au franc CFA, et ça, c'est une
On ne peut pas appeler au développement de l'Afrique et maintenir l'Afrique sous cette coupe qu'est le franc CFA.
Mais pour moi, la France se disparaîtra en même temps. On l'a vu avec Barkhane. Pour moi, ça a été symbole. Pour moi.
On verra.
Le Sénégalais, c'est des Français dans l'esprit.
Je sais pas, la question se pose
entre
le jeune. Non. Oui. Allez, c'est parti. Vous savez quoi? Tout de suite, le quoi de neuf?
Les informés. Le quoi de neuf?
Comme chaque mercredi, vous savez, c'est avec le docteur Majid Sioussine. Bonjour, le professeur. Comment ça va, docteur?
Ça va très bien, je
vous remercie. Bon, écoutez, heureux de vous accueillir et heureux surtout de vous entendre avec votre billet d'humeur comme chaque mercredi. Vous allez, paraît-il, nous parler de déficit d'attentats de Moscou et de France Info. Tiens, allez, allons-y.
Bah, écoutez, mon cher Adil, nous sommes fauchés.
C'est ce qu'on disait à l'instant.
Plus un flush. La France est réduite à finir comme un joueur rapido au comptoir du PMU, qui compte plus sur la chance qu'on prend pour son propre travail pour gagner de quoi rembourser.
C'est pas mal. L'entrée est pas mal, effectivement. Il est beau. Allez-y, docteur, allez-y, parce que sinon on va se mettre en retard. Hein. Allez-y.
À force de se comporter comme un prince russe en exil, nos finances n'ont jamais été aussi mauvaises. François Fillon avait dit, il y a bien longtemps déjà, qu'il était le premier ministre en faillite. Gabriel Attal apparaît proposé lui de vendre un rat pour aider à rembourser la dette. Tout de même, 1,5% de déficit, 3 000 milliards de dette publique, 111% du PIB, contre 98% seulement en 2019. Nous avons brûlé la chandelle par les deux bouts. Nous sommes désormais un vrai pays du club méditerranéen, comme le disaient avec mépris les Allemands. Notre seule chance, comme trop gros pour pomper, big to face. Mais ça nous prend quand même des lendemains qui dépendent. Un jour ou l'autre, et surtout, des pleurs qui vont couler. Je propose en tout cas une standing ovation à tous ces gouvernements qui, depuis 50 ans, ont été incapables de faire voter un budget à l'équilibre. Nous verrons en 2027 si Marine Le Pen, future présidente, et Jordan Bardella, futur Premier ministre, feront mieux. En attendant, Jordan Bardella, copiant le RPR et l'IDF de 1991, organise des états généraux de l'immigration qui, pour tous ces politiques incapables, constituera toujours un bouc émissaire commode de tous ces problèmes qu'ils ne savent pas régler. Et comme ce brave Jordan Bardella ne sait pas écrire, figurez-vous, mon cher Adib, qu'il fait corriger son livre par un confrère à vous, Jean-François Hakimi, présentateur vedette sur France Info, qui incarne Tachou, un leader politique, a en effet eu une collaboration étroite, sans en informer sa hiérarchie, avec le leader du RN. Pour des journalistes supposés dénoncer les conflits d'intérêts, en voilà un de majeur. Comment pourra-t-il interroger désormais ? On peut en dire autant d'ailleurs de Léa Salamé, qui a des relations plus qu'étroites avec M. Glucksmann et qui va devoir se déporter à l'antenne à partir d'avril, pourquoi pas un petit peu plus tôt.
Très juste, ouais, effectivement.
Ça nous rajeunit, mon cher Adil, et nous ramène à l'époque de François Mitterrand, président, qui avait comme ministre Dominique Strauss-Kahn, votre complice de virée nocturne.
Oh, et... oh, clochette, clochette, vous avez la clochette.
Ça, c'est
faux
bon.
Attention, hein.
Et Bernard Kouchner, qui était respectivement marié à Anne Sinclair et Christine Ockrent, ouais. Deux grandes journalistes politiques bien connues. Heureusement qu'aux informés, personne n'a de conflit d'intérêt. En tout cas, un autre événement de nos agents nous a rappelé que nous n'étions pas tout à fait en sécurité. L'attentat barbare de Moscou qui a réveillé le triste souvenir du Bataclan nous marque terriblement. Moi, je suis tout de même un peu rassuré. Après avoir vu cette magnifique photo de notre président Mohamed Ali Macron, frappant dans un sac de boxe, la mâchoire serrée et le bicep...
Il est où ? Allez-y, allez-y.
Le biceps, mais quel biceps a-t-il gonflé par Photoshop ?
Comme Amine, tu vois. Il gonfle un bloc. Il est trop fort, il est bon. C'est bon, c'est bon. Merci docteur Magic.
Mais c'est vrai que ce lien entre journaliste et homme politique, c'est vrai, il a raison. Depuis des années, c'est. Ouais. Comment il s'appelle Borloo également. Ouais. Avec,
Vous entendez docteur ce que vous dit Bruno Pommard ?
Tout à fait. Ouais, tout à fait.
Borloo avec Schoenberg.
Tout à fait.
Ouais. Merci, docteur Majid Soussine.
LCI, qui était conseiller régional du Front National et aujourd'hui.
Absolument.
Oui, Jacobini. Jacobini.
Merci. Merci, docteur. Je vous libère, on est en retard. Merci, docteur Majid Soussine. Bruno Pommard, merci, au plaisir.
Merci à vous. Merci.
À très vite. Merci, Amine Sarr.
Merci à vous.
Bébine et Siri, au
allez voter, allez voter, allez voter.
Merci de me faire rencontrer des stars.
Oh la classe. Regardez, il s'est fait tatouer raide.
Il est bon. Macron, il a un bicep.
C'est comme
il est important.
C'est comme si je me tatouais la photo de.
Merci à vous de la réalisation. À demain, avec autant de plaisir, on ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
Beurre FM, la rediff.
Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Mardi 2 avril 2024, on est ensemble durant une heure concernant toute l'actualité sportive de la journée et aussi de la semaine, de ce long week-end de Pâques. D'ailleurs, on espère que vous n'avez pas trop mangé de chocolat. On est toujours ensemble jusqu'à 22h avant d'accueillir Vanessa, c'est promis, au programme de cette émission. Ah ben oui, Vanessa, elle a rallongé son week-end de Pâques. Désolé les auditeurs, les auditrices, ça ne fait rien. En tout cas, on pense fortement à Vanessa. Lyon européen oblige. Point d'interrogation. Lyon joue en ce moment face à Valenciennes pour le compte de la première demi-finale de la Coupe de France. PSG tout prendre en 2024. En tout cas, c'est le souhait de l'entraîneur parisien Luis Enrique. On parlera aussi de basket avec nos Français, nos Françaises, avec HD. Voilà, ça c'est le menu de l'émission de ce soir. Le 01 53 48 3000, c'est pour réagir sur l'antenne de Beurre FM. Rien de plus simple, le débat du jour, on vous l'expose. Lyon, cette équipe peut-elle prétendre, j'en perds mon latin, une place européenne cette saison. Voilà, la saison prochaine du moins. Eh bien justement, on va voir tout cela avec toute l'équipe qui m'accompagne ce soir de Time Sport. Allez, c'est parti, on va la présenter finement.
Time Sport. Il est pour parler.
Allez, ce soir, on va retrouver qui ? On retrouve Benji. Bonsoir Benji, comment ça va ?
Mais ça va très bien. Bonjour Bilal, bonjour à tous. En pleine forme pour parler en plus de l'Olympique Lyonnais. Ce club qui, j'espère, va me faire sourire ce soir, et parce que j'ai pas envie de fondre en larmes à l'antenne directement, ça m'embêterait énormément. Mais non, tout va bien, on a un beau programme, on va se régaler, on va parler ballon, on va être heureux.
Eh ben voilà, on espère qu'il sera aussi tout au long de cette émission, et non pas assez contradictoire à en faire envers tous les consultants qui m'accompagnent ce soir, c'est Karim. Bonsoir Karim. Bonsoir. Eh oui, l'homme qui n'a pas peur de dire non, Karim. Comment ça va Karim ?
Ça va et toi, bon ?
Ça va ? Tranquillement, Karim. Eh ben, c'est un plaisir de t'avoir avec nous.
Merci
ce soir. Eh ben voilà, match. Mathieu est avec nous aussi. Mathieu, comment ça va, Mathieu ?
Bonsoir Bilal, bonsoir tout le monde, ça va très très bien. Première de la semaine pour moi, donc très content d'être là.
Ouais.
Un beau programme.
Ouais.
Et on a de quoi encore s'amuser ce soir.
Eh ben voilà, Grégory aussi, il est avec nous. Bonsoir Grégory, comment ça va Grégory ?
Bonsoir Bilal, bonsoir à toute la team, ça va bien. Ça
fait, tranquillement.
Ça fait plaisir d'être là sur cette
aussi,
semaine.
Grégory.
Et puis on va enchaîner sur un bon sujet comme l'OL, il y a tellement de choses à dire.
Il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, Pierre Sage, il est là. Il est bien là, tout comme Boula, qui vient de débouler dans ce studio. Voilà. Boula, eh oui, notre Boula national. Boula, tu as déboulé aussi le football français, Boula. Assieds-toi, prends place tranquillement, Boula. Tranquillement. Ah ben oui. Et là, on est avec Solal aujourd'hui aussi, à la réalisation. Bonsoir Solal, comment ça va, Solal ?
Voilà, c'est là à tout de suite. J'espère que vous allez bien, chers amis. Très heureux d'être là. Écoutez, nouvelle semaine après ce week-end un peu prolongé, mais nous, on est toujours là, fidèles au poste. Beurre FM Time Sport de 21h à 22h. Et vous pouvez réagir, chers amis, et vivre ça en HD, HD. On va l'entendre parler un peu plus tard, mais ça se passe au 01 53 48 3000 si vous voulez réagir avec nous. Forcément, Lyon ce soir, Benji qui est pas mal sur les talons.
On joue la 18e minute de jeu. Lyon face à Valenciennes, toujours 0 partout. Première demi-finale de cette Coupe de France, édition 2023-2024. Benji. Pierre Sage.
Là c'est vrai que là on est concentré dans ce match qui oppose l'Olympique Lyonnais à Valenciennes pour le compte de cette demi-finale de Coupe de France, un club de Valenciennes qui a perdu son match de Ligue 2 face à la AS Saint-Étienne ce week-end pour le compte de la Ligue 2. Valenciennes qui est bon dernier pour le moment du championnat de Ligue 2 et qui aura beaucoup de mal à se maintenir dans cette division. Donc c'est un match qu'ils vont jouer à fond. Mais de ce que j'ai pu voir récemment du club valenciennois, l'Olympique Lyonnais doit s'imposer ce soir s'ils mettent les ingrédients dans le sens où même on a tendance à dire qu'il faut pas juger non plus, il n'y a pas de petites équipes en Coupe de France. C'est vrai que le parcours de Valenciennes n'était pas le plus compliqué de tout le circuit. Ils ont sorti avec des belles victoires, avec beaucoup d'assurance et avec beaucoup de maîtrise, notamment dans des fins de match un peu compliquées. Donc une équipe compliquée, je pense qu'il faudrait essayer d'ouvrir le score assez rapidement du côté de l'Olympique Lyonnais pour pas se mettre en danger et pas commencer à laisser l'espoir à une équipe valencienoise qui pourrait se nourrir du moindre petit déchet tactique et technique du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc non, match crucial comme tu l'as dit Bilou en introduction pour aller chercher l'Europe parce
que cette place européenne
cette victoire en Coupe de France permettrait d'avoir un accès en Ligue Europa. Ce qui risque d'être compliqué pour l'Olympique Lyonnais au vu du championnat. Alors évidemment, on n'est qu'à 4 points d'une potentielle 7e place qualificative pour une Coupe d'Europe également en cas de victoire, notamment du Paris Saint-Germain dans cette Coupe de France. Mais il faut mettre tous les ingrédients ce soir et jouer ces deux matchs potentiels de Coupe de France, déjà ce match de Coupe de France, comme une finale.
Tu parles Benji de il y a que 4 points sur la 7e place
occupé par l'Olympique de Marseille, mais les 20 buts d'écart aussi en termes de différence de but.
Mais il y a surtout aussi il y a que 9 points d'écart entre l'Olympique Lyonnais qui est 10e et Lorient qui est premier qui est barragiste.
Évidemment.
Ouais. Donc 9 points, c'est très peu.
Attention.
L'Olympique Lyonnais, on a déjà dit ici qu'il y avait beaucoup de mieux depuis l'arrivée de Pierre Sage, mais en fait ce classement est tellement serré que voilà, Lyon peut jouer l'Europe à partir de la phase du championnat, mais il faut quand même aussi regarder derrière parce qu'il n'y a que 9 points. Ils vont jouer contre des équipes comme Strasbourg, ils vont jouer aussi contre Metz et contre Clermont. Donc ça va pas être facile, des équipes qui jouent le maintien. Et Lyon, ils doivent regarder bien sûr vers le haut, mais ils doivent aussi faire attention à ce qui se passe dans les rétros. Mais là, pour revenir au match de ce soir, oui, contre Valenciennes, ça doit être victoire obligatoire parce que Valenciennes, ils sont à 16 points du barragiste en Ligue 2.
Oui, c'est
donc ils sont loin, loin derrière. Ils vont sûrement descendre en National.
En Ligue 3 l'année prochaine.
C'est une victoire obligatoire pour les hommes de Pierre Sage ce soir.
Ouais. Voilà. Lyon. Valenciennes.
J'espère que.
Comment ça va, Boula?
J'espère que Ahmed Kantari va nous faire une. Tu vas nous faire une surprise.
Ouais. Ah ouais, l'espoir de la Coupe de France, comme on dit à chaque fois.
En plus de ça, ce qui est bien, c'est que quelqu'un comme Pierre Sage qui a été au Restart l'année dernière, quand tu vois ce qu'il vit aujourd'hui, c'est extraordinaire. Et je pense qu'il a 2 ans à la clé. S'il arrive à emmener son club en finale,
Alors ouais. Vas-y, Boula.
Ouais.
Je sais pas qu'est-ce qu'il a, Boula.
Et s'il a ramené son club en finale, je pense que le deal qu'il y a pour Pierre Sage, c'est deux années derrière. Et je pense que depuis qu'il est arrivé, les résultats ils sont là. Il a un bon staff. Et la qualité qu'il y a à Lyon, c'est aujourd'hui, c'est pas un hasard qu'ils sont remontés un peu au classement et puis qu'ils sont en demi-finale de la Coupe de France.
Alors j'adore Pierre Sage, mais il faudra aussi penser à l'emmener passer ses diplômes, etc., pour éviter à payer cette amende à chaque match de 25 000 euros, qui sur le long terme pourrait aussi commencer à faire cogiter un peu les dirigeants, même si, au vu des résultats, je pense qu'il faut continuer à donner sa confiance à Pierre Sage et à lui laisser un maximum de temps pour continuer à modeler cette équipe dans le bon sens. Parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois sur cette antenne, on voit la touche Pierre Sage, le côté technique et tactique de Pierre Sage, déjà avec un effectif qui est convalescent voire encore malade. Alors quand il aura les hommes qu'il veut aussi, peut-être avec un autre mercato en plus, ouais, avec déjà une confiance qui est encore plus grande envers lui et envers ses principes, je pense qu'on verra un Lyon qui, au-delà des bons résultats qui sont souvent un peu ric-rac aussi cette saison, il faut le dire, c'est des victoires avec un but d'écart très régulièrement, je pense qu'avec plus de confiance, avec plus de temps et avec plus d'adhésion au Pierre Sage Ball entre guillemets, je pense qu'on aura un effectif qui jouera mieux et qui pourra se mettre plus facilement à l'abri sur des rencontres où on se fait peur.
Mais quand tu parles de diplôme, moi j'arrive pas à comprendre parce que tu parles de diplôme.
Oui.
C'est vrai que, mais le problème c'est que c'est le système français qui est un petit peu compliqué.
Évidemment, je
c'est
parle
le
juste.
Système voulu compliqué parce qu'il y a des entraîneurs, il y a des entraîneurs qui ont des qualités pour gérer des clubs de première division, qui ont géré des deuxième division. Parce que là je pense que on l'a vu sur les résultats qu'il a. Moi je l'ai connu un peu au Restart l'année dernière avec Habib. Avec Habib, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Tout le monde est unanime. Aujourd'hui le football français, il est différent. On veut des diplômes. On veut des diplômes chez les arbitres. On veut des diplômes. On veut que des mecs qui ont été à l'école.
Partout, quoi.
C'est-à-dire que le monde du football aujourd'hui, il appartient qu'aux mecs qui ont été à l'école. C'est ça, tu veux dire.
Et puis, moi, je suis pas d'accord avec ça.
Je parle juste des faits, de ce qui se passe actuellement. Je suis pas d'accord avec ça parce que j'estime qu'il est en demi-finale. Mais bon,
j'ai été le premier à donner mon soutien à Pierre Sage qui a été nommé.
Et aussi Karim qu'on n'a pas entendu encore. Oui, messieurs.
Tu peux savoir conduire, c'est pas pour autant que t'as le permis de conduire.
C'est ça.
Alors en France, on a un très bon système d'une manière générale, en passant les agents où il faut une licence et c'est une bonne chose. Les entraîneurs, il faut une licence, c'est une bonne chose aussi. À chaque étape, je finis juste, à chaque étape, que ce soit N1 ou alors en Ligue 1, faut avoir des certifications qui sont en adéquation avec ce que tu vas manager. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, on a peut-être un autre sujet.
Alors Grégory,
c'est la difficulté à atteindre ces diplômes. Et dans ce cas-là, on ouvre un autre sujet, particulièrement pour les entraîneurs, où c'est assez cloisonné.
Surtout pour
tout le monde a du mal à pouvoir passer les concours, etc. Mais là, c'est un autre sujet.
Cet autre sujet
ne doit pas compromettre le fait qu'il faut avoir des gens qualifiés.
Karim, toi t'es d'accord.
Par rapport à Pierre Sage, il me semble qu'il était au centre de formation, donc il me semble qu'il avait quand même quelques diplômes.
Il est formateur.
Voilà, il est niveau de formateur, mais c'est déjà un premier diplôme en fait. Donc oui, Pierre Sage, il a géré le centre de formation, donc il avait un diplôme. Et après, moi ce que je voulais dire, c'est par rapport à la Coupe de France et l'Olympique Lyonnais, c'est un peu une bouffée d'oxygène en fait par rapport à cette Coupe de France. Et il faut savoir aussi qu'il y a à la deuxième demi-finale, c'est Paris Saint-Germain contre Rennes. Et là, si le Paris Saint-Germain gagne cette Coupe de France, il y aura 7 qualifiés dans le championnat français. Donc je me demande même si est-ce que Lyon doit gagner sa finale en Coupe de France ou laisser le Paris Saint-Germain gagner pour avoir.
Tu veux pas dire ça, Karim.
Le dernier titre de l'Olympique Lyonnais, ça remonte à 2012 avec un trophée des champions.
Bien sûr.
Donc c'est quand même quelque chose de très important.
Tu dois faire un choix entre
en plus, t'as
une qualification directement via le championnat ou un titre. Tu prends le titre.
Aucun débat.
C'est pas dans ce sens-là, les gars. Je sais qu'il
vas-y.
Je voulais apporter cette information que si le Paris Saint-Germain gagne la Coupe de France, effectivement, il y aura 7 places qualifiées dans le championnat français. C'est énorme.
Il y a plein d'équipes qui sont à la
fin.
Oui, et puis l'OL est passé du statut de Freddy Krueger de la Liga au statut des guignols de l'info de la Liga. Quand on voit le début de saison,
c'est pas la bonne époque des guignols en plus.
Quand on voit le début de saison, je veux dire, c'est Walking Dead. Des zombies sur des terrains, il n'y a rien du tout sur cette première partie de saison.
Alors qu'il y a un effectif de qualité.
Alors que sur le papier, il y a un effectif de qualité.
À tous les postes.
Cette équipe lyonnaise.
Aujourd'hui, ça rebondit un petit peu. C'est super fragile, faut pas se leurrer. Ils ont des grosses échéances qui arrivent de, de mémoire.
C'est pour ça qu'on a parlé de convalescence. Ils étaient malades, là ils sont convalescents, il y a encore toujours des séquelles. Il y a encore des grosses séquelles, il y a encore des petits restes de maladie. Donc Pierre Sage est en train de guérir au fur et à mesure. Alors que c'est vrai, comme tu le disais en début de saison, première partie de saison, je n'ai pas peur de dire qu'on est la pire équipe d'Europe, du moins en termes de jeu.
Juste par rapport à rapidement, un joueur surtout ça m'a marqué, c'est le gardien de l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopez. Qui a été exceptionnel pendant des années avec nous et qui a démarré la saison comme si méconnaissable. Qui faisait des boulettes, qui faisait pas d'arrêt important à l'image de cet Olympique Lyonnais.
Quand tu as des problèmes de dirigeant, tu as un problème, tout redescend chez les joueurs. Quand un club n'est pas structuré et organisé, c'est plus eux qui doivent être formés. Que je reviens sur la question des agents. Aujourd'hui, le métier d'agent, aujourd'hui, c'est le seul pays au monde où tu peux pas exercer, où tu es obligé d'avoir une licence FIFA. C'est le seul pays au monde. Dans n'importe quel pays au monde, tu peux exercer ce travail. La preuve, c'est une licence. Non, mais je reviens sur ça. Faut que tu saches qu'aujourd'hui, les agents les plus influents en France, et c'est des mecs qui dérangent. Tu prends les Moussa Sissoko, les Bakary Sanogo, les Classico, c'est des gens. Il y a un système aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux, c'est eux qui ont pris de l'ampleur, et t'inquiète pas, ils sont structurés, organisés. Même si le diplôme, il est compliqué à avoir, parce que c'est un diplôme d'intellectuel, tu le sais, c'est que du droit. Mais je revenais juste à ça. Et ce qui concerne Lyon, aujourd'hui, le bordel qu'il y a à Lyon, c'est plus les dirigeants que les joueurs. Quand tu me dis Lopez, ça a été un joueur extraordinaire. On peut dire ce qu'on veut, mais il a fait une grande carrière à Lyon. Pour moi, c'est un des symboles de l'épique.
Et c'est ce que je te dis. Et c'est pour ça que quand je l'ai vu dans ce début de saison, beaucoup moins à son niveau.
Mais comme la plupart des joueurs lyonnais aussi.
Mais c'est parce que c'est un cadre.
Oui, mais je suis d'accord avec toi. J'ai été le premier à critiquer Lopez.
Il y a aussi Alexandre Lacazette qui a eu du mal à se mettre en route. Là, il a marqué des buts, ça va beaucoup mieux. Et il y a eu des blessures. Mais ces deux joueurs-là, ce sont des cadres. Et quand on les voit, leur niveau de jeu en ce début de saison, et qu'on voit que l'Olympique Lyonnais est dernier, je me dis que, il n'y a pas que deux joueurs, mais ces deux cadres, l'un et l'autre.
Merci Mathieu. On va revenir sur Lyon,
c'est la formation.
Allez, on va revenir sur l'Olympique Lyonnais qui joue en ce moment.
Quand tu vois
31
des joueurs qu'on joue au Bayern, des joueurs
Lyon face à Valenciennes,
c'est que des jeunes du centre de formation.
Voilà, toujours zéro partout.
C'est Boula qui aime bien enchaîner.
Eh oui, Grégory, tu l'as touché en plein cœur, Boula. Quand ça parle d'agent, quand ça parle du business, c'est aussi du ballon, mais le pur, il aime beaucoup. On va faire une courte pause, on revient avec l'Olympique Lyonnais, c'est promis.
Time Sport revient dans un instant.
Beurre FM, la rediff.
Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, on se mardi soir 21h17, toujours ensemble jusqu'à 22h avec l'équipe de Time Sport. On est avec Boula, sans oublier Mathieu, Benji, Karim et Grégory qui sont de la partie. On sera rejoint par HD en fin d'émission pour parler basket. Allez, place toujours au dossier concernant l'Olympique Lyonnais.
Time Sport. La parole des sociaux.
C'est le fil rouge de la soirée. 32e minute de jeu, toujours 0 partout entre Lyon et Valenciennes. Coupe de France, demi-finale. Oui, Karim, on t'écoute.
Moi, pour le coup, l'Olympique Lyonnais, effectivement, là, c'est un grand tournoi de leur saison. Mais après, moi, comme je disais, je pense qu'ils sont pas non plus, obligés de la gagner. Même s'ils devraient la gagner, ça serait mieux pour eux. Mais je pense pas qu'ils ont que ça comme possibilité.
Paris qui doit gagner cette Coupe de France.
En théorie, normalement, c'est le Paris Saint-Germain qui est super favori.
J'ai déjà dit sur ce plateau que c'est Paris qui décide tout le temps.
C'est Paris qui décide tout le temps.
Quand Paris.
Il y a Rennes qui avait décidé à la place de Paris.
Oui, mais parce que peut-être Paris avait moins décidé. Paris qui décide. Si Paris veut mettre les ingrédients sur tous les matchs, ils mettent 5-0 à tout le monde. Paris a un effectif.
Un peu dans la caricature quand même.
Bien sûr. Paris a un effectif. À une qualité d'effectif à chaque
densité
poste,
d'effectif.
Tel que ils doivent rouler sur tout le monde en Ligue 1.
Paris
décide de gagner la Coupe de France,
bien sûr,
ils gagneront cette Coupe de France.
Après, ils ne peut pas faire les dernières saisons. Allez, carrément.
L'Olympique Lyonnais.
On a Farid aussi.
L'Olympique Lyonnais, du coup, s'ils gagnent effectivement cette Coupe, ils seront directement qualifiés en Coupe d'Europe. Et effectivement, ils n'auront plus trop le besoin du classement en Ligue 1. Donc, oui, effectivement, par rapport à l'Olympique Lyonnais, vaut mieux qu'il a joué à fond cette Coupe directement que de passer par le classement en championnat.
Le 0-1-53-48-3000, on va retrouver Farid, fan de l'Olympique Lyonnais. Bonsoir Farid. Il est avec nous, Farid. Bonsoir Farid.
Oui, bonsoir Bilal, bonsoir à tous.
Comment ça va, Farid? Salut Farid.
Écoutez, je vous écoute attentivement depuis tout à l'heure.
Ouais.
Donc c'est très intéressant. Je viens d'apprendre que c'est Farid qui décide.
Bah, ouais, ben voilà, voilà, c'est ça, c'est Mathieu.
On va enregistrer le message.
Ah ben ouais, ouais. Farid décide de tout.
Non,
en
ben
France.
Là on est en place, hein. On est en place devant le match. Bon, il faut comme bien sûr pas sous-estimer Valenciennes, mais honnêtement entre nous, Valenciennes, bon, équipe de Ligue 2 qui est dernier du championnat, normalement elle devrait même pas se retrouver en demi-finale. Mais c'est le charme de la Coupe de France, c'est comme ça. Le problème, c'est que j'ai un petit peu peur. Moi, pour moi, la clé du match, c'est que Lyon doit marquer absolument et très rapidement. Ne pas s'embourber dans un match où voilà, il va falloir courir lors des 5 ou 10 dernières minutes, ça sert à rien, parce que ça pourrait commencer à être dangereux. Le problème, c'est que Valenciennes a tout misé sur la défense. Là, je suis en train de regarder, ils sont à 15 derrière. Mais c'est comme ça, toi. Donc, de toute façon, il fallait s'y attendre. Et Lyon a intérêt à être efficace lors de ce match. Et pour revenir à la finale de Coupe de France, si Lyon est qualifié, bien sûr, parce que je mets bien ainsi, avec tous mes respects pour Valenciennes, il faut pas oublier quand même que heureusement pour une place européenne, mais ça reste un titre. Il faut rappeler que Lyon n'a pas gagné de titre depuis plusieurs années. Donc, en même temps, ça serait une qualification pour la Coupe d'Europe, ça serait énorme suite à la saison qu'ils ont vécue. Ça serait même une des saisons les plus marquantes de l'Olympique Lyonnais. Mais c'est surtout un titre, la Coupe de France qui rentrera à la maison, ça ferait un bien énorme. Et je le répète et je le redis, une place en Coupe d'Europe, avec le projet de Eagle, avec John Textor à sa tête, je peux vous dire que le mercato d'été va être très très alléchant, effectivement.
De Karim et de Grégory pour Farid.
J'avais deux questions pour toi, Farid. La première, c'est est-ce que le match contre Valenciennes te fait penser au match contre le RCT, contre Strasbourg, le tour d'avant en quart de finale? Parce qu'après, on se souvient, ça allait jusqu'au pénalty. C'était un peu ric-rac, la qualification de
Valenciennes. Valenciennes est quand même moins joueur que Strasbourg l'était.
Moi, ça me fait penser
à... Strasbourg avait un peu plus de talent, quand même.
D'accord. Et ma deuxième question, c'est pour toi, donc l'Olympique Lyonnais doit gagner cette Coupe de France ou doit passer par le championnat pour être européen l'année prochaine, Farid?
Non, le championnat, je pense que c'est mort, honnêtement.
Donc pour toi...
Ils ont battu Reims, là, ce week-end.
Ouais.
Avec 37 points, je me dis peut-être. Le problème, c'est qu'ils vont à Nantes le week-end prochain.
Effectivement.
Et Nantes, avec l'arrivée de Comboiré, là, j'ai vu qu'ils sont allés gagner... là ce week-end à l'extérieur 2-1 d'ailleurs face à Nice si je me trompe pas,
c'est ça.
Et donc voilà, je me dis ça va être aussi compliqué à Nantes. Donc là il faut vraiment, je pense que Lyon est sauvé quand même.
Bien sûr.
Je pense que Lyon est sauvé.
Allez.
Il reste une ou deux victoires à enchaîner. Mais non, je préfère la Coupe de France quand même.
D'accord.
Après honnêtement, j'ai vu Paris Saint-Germain jouer.
Ouais.
C'est très très costaud, hein, quand même.
Très costaud. On va revenir au Paris Saint-Germain. Grégory, avec Farid, l'auditeur, sur Lyon.
Alors, dans un premier temps, j'ai corrigé une info tout à l'heure sur la licence FIFA. Elle est obligatoire jusqu'en 2015.
Ouais.
Elle a été retirée par la FIFA en disant on va laisser les fédérations gérer cela.
C'est ça.
Et très rapidement, au bout de 6-7 ans, ils se sont aperçus que c'était la bérésina avec le nombre de gens incompétents qui se sont engouffrés et qui ont pris la faille. Aujourd'hui, la licence FIFA est de nouveau obligatoire. Et en France, c'est la licence FFF qui est obligatoire. C'est-à-dire que la licence FIFA, elle vous donne aucun droit de travailler en France. Ça, c'est une première parenthèse.
Ben voilà.
Et
ouverture du score de
Valenciennes à Lyon.
Valenciennes face à Lyon, ouverture du score.
Deuxième sujet pour rebondir sur Farid, sur ce qu'il dit.
On a perdu Benjamin, désolé.
Il y a un homme à terre.
Pour Lyon, ça va être très compliqué parce que à travers la Coupe de France... On en parlait en off. Je pense que Valenciennes a un coup à jouer ce soir. Bon, on verra la suite du match.
Bien sûr, elle
après,
pas
on risque effectivement d'avoir Paris qui décide pour la finale. Mm-hmm. Et puis, en termes de championnat, ils vont rester dans le ventre mou. Ils sont coincés dedans. Je trouve que c'est déjà pas mal s'ils restent coincés dedans d'où ils reviennent.
Ouais.
Et ça va être une saison de transition, je pense, pour Taylor et pour toute son équipe, en espérant qu'ils nous préparent une bien meilleure saison l'année prochaine.
Farid, pour terminer.
Ouais. Oui, bah, je viens d'assister à l'ouverture du score de Valenciennes.
Ah ben oui,
checké par la barre, actuellement.
Voilà, même si je pense qu'il y avait une petite faute au départ.
Elle est checkée par la barre, actuellement.
Voilà, bah, ça commence à râler. Mais d'ailleurs, il y avait un petit pénalty sur Noama tout à l'heure. Et
le but a été refusé.
Exactement.
Le but a été refusé, hein. C'est qui, le but a été refusé. Voilà, le but a été refusé, Farid.
Voilà, c'est une alerte quand même. Hein,
ça bien sûr, c'est une alerte. Attention à l'Olympique Lyonnais. Grand merci, Farid,
c'est
d'avoir réagi.
De France,
bah, merci à vous.
Merci. Merci, merci, merci. Et à Toto Bellozzo aussi.
Merci.
À bientôt. Toto Bellozzo est à l'écoute de Bora FM aussi, qui nous rejoindra sous peu dans cette émission. Oui, Benji, on termine avec Lyon. On va retrouver le PSG.
Donc, avant de poursuivre sur l'analyse tactique, juste après, juste dire que c'est le premier tour. Du coup, la VAR est arrivée en Coupe de France. C'est à partir de la demi-finale où la VAR apparaît en Coupe de France. Non, tout avant, peut-être que ce but aurait été accepté. Mais au-delà de ça, c'est une très grosse alerte parce que c'est exactement tout ce qu'on ne veut pas voir du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire, c'est typiquement le piège ultime que Valenciennes veut poser à l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire de mettre un bloc extrêmement bas où des Lyonnais se projettent beaucoup vers l'avant pour justement essayer d'aller créer le surnombre ou au moins d'essayer d'aller créer des déséquilibres dans la défense avec une possession justement pour essayer de faire bouger les lignes. Et quand tes latéraux se projettent énormément vers l'avant pour justement apporter surnombre et essayer de mettre des gens dans la surface, et ben derrière t'as une contre-attaque qui est plutôt facile où t'as un milieu de terrain qui est en retard donc qui essaye de faire un tacle pour essayer de récupérer le ballon, il rate son tacle, derrière t'as un 2 contre 1 qui se finit par se jouer par les joueurs de Valenciennes qui étaient très bien joués d'ailleurs le coup du 2 contre 1 où il arrive à prendre Lucas Perry à contre-pied. Donc c'est typiquement le genre de scénario qu'il faut éviter du côté de l'Olympique Lyonnais, peut-être en laissant un milieu un petit peu plus bas sur le terrain sur certaines possessions offensives.
Pas trop s'ouvrir quoi, c'est
exactement
ça, Benji,
hein. et parce que là on arrive à une vraie grosse alerte qui aurait pu amener l'ouverture du score lyonnais, parce qu'honnêtement on n'en est vraiment pas loin.
On termine avec Lyon, on discute du Paris Saint-Germain. Eh oui, carton peut-être, oui ou non. Oui, on a plus parlé des tifos marseillais lors de ce classique du football français.
Ah, désolé,
que de ce match-là.
Je vais revenir sur
Désolé.
Tifo,
parce que tu vas revenir. Ouais, mais attends.
Tu vas revenir sur Redouane.
Non,
mais
non,
Redouane.
Il a raison. Eric Guéret qui vient aussi au Vélodrome.
Ah, Eric Guéret, entraîneur marseillais, l'ancien.
Donc, j'ai rien contre Redouane Bougueraba.
Non, rien contre lui.
Mais sur un classique avec tous ces événements, de mettre un tifo de Redouane, j'ai un petit peu de mal. Donc, c'est. Ils nous ont habitués à beaucoup mieux, nos amis, nos amis du virage.
Alors,
il est malade et il est en train de se soigner.
Oui. Comme j'ai dit, j'ai rien contre Redouane.
Mais t'as les 4 ans de
Bakayoko. C'est les 4 ans du
Bakayoko. Il a un problème de santé. Maintenant, le problème, c'est que là, vous parlez et vous connaissez pas la situation. Pape était un grand monsieur. Je dis pas le contraire. Pape, c'était un grand monsieur. Il faut que tu saches que Pape, quand il était président, on a tout fait pour le dégager. C'est lui qui avait choisi Deschamps. Voilà, ils ont pris l'autre de TF1 là, qui n'a rien à voir dans le football. Ils ont préféré son image à lui que l'image de Pape. Si tu veux savoir un peu le monde du football, comment il est, tu prends un mec comme Pape aujourd'hui. Si Deschamps il est venu, il est venu pour Pape.
Et je sais bien.
Voilà, et ce qui est dommage, parce que quand on parle de Pape, c'est ça reste quand même un grand monsieur du football.
Oui, exactement. Français. Et c'est justement ce qu'on se dit. On te dit que le tifo, selon moi, un 31 mars, 4 ans jour pour jour après le décès de Pape Diouf, pour moi, le tifo, surtout sur un classique comme ça, le tifo aurait dû être pour Diouf.
Ça aurait été plus logique.
Ouais, selon moi, tu peux faire un truc avec Redouane Bougueraba, justement, si tu nous dis qu'il est malade. Tu peux faire un tifo avec Redouane Bougueraba, si justement tu me dis qu'il est malade, il va faire le stade Vélodrome, si tu veux, etc. Juste que pour un classique, pour moi, quand t'as un match qui est sous les caméras comme ça, où t'as énormément de tension, où t'es 4 ans jour pour jour, où tu peux pas le faire la semaine d'après pour Pape Diouf. Tu peux le faire la semaine d'après si tu veux. Pape Diouf, c'est le 31 mars. T'as, comme le dit Mathieu, t'as Guéret qui est là aussi.
Ouais.
Mais pour moi, c'est le 31 mars. T'as un tifo pour Pape Diouf, surtout pour un classique. Après, c'est trop important. Il y a une ADN marseillaise.
Je pense qu'ils auraient dû faire Pape Diouf. Je pense que c'est une erreur qu'ils n'aient pas fait Pape Diouf. Parce que c'était vraiment un coup à marquer. Pape Diouf, ça symbolise l'OM. Après, pour d'autres, et effectivement, on aurait pu faire la semaine suivante sur un autre match.
Bien sûr, là on était sur le Paris Saint-Germain, mais on est obligé de parler de l'Olympique de Marseille. Je tiens à rappeler.
C'est vrai, sur le fond,
Boula.
Je suis d'accord avec toi par rapport à.
Et c'est pour ça qu'on te dit, on n'a rien du tout contre Redouane.
Attends. Je crois qu'il parlait d'Éric Guéret, qui est convalescent, et non pas de Redouane Bougueraba, qui est. Oui, c'est ça. Je crois.
tout.
Non, pas du tout, ok. Ok, bon, ça va, il n'y a pas de problème.
Non, pour moi, ouais, vas-y. Moi, je voulais revenir sur le classique de dimanche. Bah, c'était quand même, il n'y a pas eu d'incident, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc, ça, je voulais féliciter. C'était une belle fête du football français. Et après, par rapport au terrain, par contre, là, on a un problème, Bilal, avec l'arbitrage. Il y a un très, très grand problème.
L'arbitrage.
Ah, ouais, non, sur le but de Veretout, honnêtement, il y avait but. Ouais. Il y avait but. En plus, c'est un Parisien qui la dégage dans. C'est un CSC, en fait. C'est un but contre son camp. Et là, on comprend pas. Ça a faussé un peu le match. Mais faut dire que faut reconnaître que l'Olympique de Marseille a fait une bonne première mi-temps. Ça s'est un peu estompé en deuxième période. Mais quand même, fallait reconnaître quand même la qualité et le travail et l'envie de l'Olympique de Marseille sur ce match de dimanche soir.
Sur une première mi-temps.
Sur une première mi-temps. Mais bon, quand même, c'était pas non plus. Il y avait pas.
Je pense que l'Olympique de Marseille n'est pas défendable. Ouais. Parce que faut, là, faut arrêter.
Oh,
je
vous
pense
abusez,
que... Non, faut pas arrêter. Ils sont pas défendables. Il y a une gestion qui est faite. Qui font n'importe quoi. Il y a un actionnaire qui fait n'importe quoi. Oui. T'as Longoria qui fait n'importe quoi. Aujourd'hui, t'as des supporters.
T'as
des
ramages sur le match.
C'est une fois de plus une défaite de l'Olympique de Marseille à Hong Kong 10. Déjà, tu fais des points perdus à Hong Kong 10. Tu fais rentrer, tu sors les deux plus gros joueurs du PSG, tu fais rentrer deux remplaçants de luxe, parce que c'est deux remplaçants
Gonzalo
de luxe.
Ramos,
à 10, t'arrives à leur mettre un but derrière. Alors,
pourquoi
à un moment donné, la qualité
ici
de certains joueurs, pour moi, ils ont pas le niveau pour jouer à Marseille. Ouais. C'est malheureux à dire. Là, on peut,
tu penses à qui?
Oh, il y en a plein.
J'ai pas
besoin de donner des noms. C'est facile à savoir. Tu regardes la plus-value des joueurs.
Alors,
dis-moi qui vaut plus de 15 ou 20 millions d'euros.
Tu vas
quand tu regardes et là
alors Mathieu, c'est que
les Marseillais n'ont aucune excuse. Ils jouent une heure à 11 contre 10. Ils sont dans leur stade. C'est plein à craquer. Ils sont en folie, les supporters. Et en fait, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est Paris qui décide. Parce que même à 10 contre 11, quand ils décident d'appuyer sur le bouton, ils marchent sur deux contre-assassins. Et derrière, il sait très bien Luis Enrique. C'est pour ça qu'il sort Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé. Parce qu'il sait très bien qu'il y a des joueurs qui vont rentrer ou qui sont déjà sur le terrain, qu'il va y avoir des possibilités de contre. Parce qu'à un moment donné, les Marseillais vont baisser d'intensité. Les Parisiens, ils vont faire un bon dégagement ou une bonne relance.
Parce que t'as la Coupe de France et la Ligue des Champions.
Le milieu, Zaïre Emery qui casse le milieu en une passe. Mais... derrière, ils sont à 3 contre 3. Les deux buts, c'est comme ça. Et derrière, le ballon, il circule du côté parisien. Il se retrouve à 3 contre 3. Et quand tu te retrouves à 3 contre 3, et que t'as couru déjà pendant 60-70 minutes, et quand t'as la qualité et la technicité des Parisiens, et ben derrière, quand tu décides d'appuyer sur le bouton, tu marques de but.
Ouais, Grégory,
ouais, je vais rebondir sur ce qu'a dit Paris concernant l'arbitrage déjà.
L'arbitrage,
la VAR résout un certain nombre de problèmes ancrés maintenant,
beaucoup plus.
Ouais. On va bientôt se retrouver avec la VAR de la VAR.
Ouais.
Mais c'est un peu trop facile de se cacher derrière la VAR aussi.
Ça, c'est un premier point.
C'est un peu trop facile.
Pour revenir sur le match PSG-OM, on voit ni plus ni moins la différence de budget. Une ligne parisienne est égale à la valeur de quasiment chaque équipe qu'on a en Ligue 1.
Mais ça n'a rien à voir, parce que quand tu es sur le terrain,
en plus si tu mets des mecs motivés, c'est super compliqué. Marseille, ils font de leur maximum, que ce soit le staff, enfin tous les étages, et quasiment, et c'est vrai pour beaucoup de clubs français, tout le monde fait le maximum, mais on n'a pas les moyens, ça s'arrête là.
On a vu qu'il n'y a pas les moyens. Macron, il a invité le chef Tamine, il a invité Kylian, il a invité le président
de la politique.
On voit bien qu'il y a un problème dans le football.
Ah ben, il y a un problème, c'est toujours la politique qui est liée à ce problème-là, selon Boula. On reste à l'écoute de Beurre FM et on revient, c'est promis, avec le Paris Saint-Germain, sans oublier aussi le basketball.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Ok, 21h34, toujours en live avant la fin de cette émission à 22h, et aussi du basketball avec HD qui nous a concocté cela. On va revenir, avant de revenir sur le basketball, on va parler de ce Paris Saint-Germain. Oui, tant de choses à dire avec Karim, avec toute l'équipe qui m'accompagne ce soir, Grégory, sans oublier Mathieu, Boula et Benji. La dernière rubrique de l'émission.
Time Sport, le mode pressing.
Vas-y carrément, t'écoute.
Et après voilà, sur le Paris Saint-Germain, moi j'arrive pas à comprendre avec tout ce qui se passe avec Luis Enrique et Kylian Mbappé. Mais pourquoi il le sort à la 64e minute
parce
en fait
que c'est le patron.
Mais non,
c'est
son
Non, Karim,
si ton patron il te dit ah bah tiens aujourd'hui Karim tu vas faire 2 heures supplémentaires.
Voilà.
Ah bah tiens aujourd'hui tu peux partir un peu plus tôt. C'est ton patron, tu dis oui boss.
Le patron.
Pour une fois, il y a un entraîneur, un manager général. Parce que là, j'appelle pas ça un entraîneur, j'appelle ça un manager général.
En fait, c'est un entraîneur parce qu'il sort Kylian Mbappé maintenant.
Non, c'est incroyable, on a les statistiques. Il l'a sorti avant Real Sociedad, il les a qualifiés. Et la différence, c'est Kylian, il a besoin de ça pour aller plus haut. C'est tout. Et la différence, il a pas 27 piges, il a 24 ans, le petit. Le petit, là, il est en train de faire un parcours.
Parle-moi pas d'âge, comme il dit.
Si, je te parle d'âge. Parce que moi, j'ai connu tous les cracks qui sont arrivés avant. Déjà, les cracks, ils sont pas montés dans les tribunes. Parce que ce qu'il fait à Monaco et ce qu'il fait de pas serrer la main,
on lui fait rien.
Je suis un des plus gros défenseurs de Kylian. Et Kylian, aujourd'hui, parce que pour moi, les deux détails, pour moi, ça enlève de sa classe mondiale.
Luis Enrique rend un très grand service à Kylian. Il le saura pour les années qui viennent.
Tu joues 90 minutes quand t'es un attaquant. Tu connais des attaquants qui jouent tout le temps 90 minutes.
Mais c'est le meilleur joueur au
Il a des échéances en Coupe de France qui arrivent. Il y a des matchs cruciaux qui vont arriver pour le Paris Saint-Germain. Exact. Il a aussi une année prochaine qui va arriver où il n'y aura plus Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain parce qu'il va signer au Real Madrid.
Il a répondu aux journalistes. Il leur a dit pourquoi j'ai un problème. J'ai pas de problème.
Voilà.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire la différence. Le match d'après, il a fait la différence.
Voilà. Il le sort parce que c'est lui le chef.
C'est lui le chef, il décide.
Mais c'est ça, c'est l'entraîneur.
Il décide. Mais alors, il fait sortir ton meilleur joueur. Il fait ce qu'il veut. C'est illogique. Il est pas bon. Lui, c'est un effectif. Il gère un effectif. C'est ça qu'il faut comprendre. J'entends Grégory. Même tu t'appelles Messi, il gère son effectif.
D'accord.
Mais c'est la force de Luis Enrique. Parce que les anciens entraîneurs, les Thomas Tuchel, les Unai Emery, les Christophe Galtier, ils ont jamais sorti ces grands joueurs-là. Ils ont
jamais bougé.
C'est qu'à un moment donné, même si c'est le meilleur joueur du club, si l'entraîneur qui est le patron de cette équipe, qui fait l'équipe, qui décide des changements, il voit que Kylian n'est pas bon et qu'il a un Kanginli ou un Ramos qui s'est bien entraîné cette semaine et qui mérite de rentrer, qui dit qu'il va mieux faire que Kylian, il a quand même le droit de sortir Kylian Mbappé.
Maintenant, pour terminer ça, pour conclure tout ça, je vous pose la question, les amis. Vous avez vu dans d'autres clubs un entraîneur ou dans d'autres sélections un sélectionnaire qui, quand il voit son meilleur joueur, et c'est vous-même, vous le dites, quand il voit son meilleur joueur dans une période assez difficile, dans la patauge, il patauge, le sortir au bout de la 60e minute, vous trouvez ça logique en fait.
C'est ça le sport.
Si, c'est comme ça,
va travailler, à qui regagne sa confiance, qui l'amène.
Merci Mbappé. Karim. Mais allez Solal, on va le faire réagir Solal. Allez Solal, concernant le Paris Saint-Germain avant le basketball.
Il a marqué Mbappé ce week-end.
Non, mais il serait resté, il aurait marqué Solal. En fait, c'est ça qui
Il a marqué Mbappé. Je comprends pas, ça fait 10 minutes on parle de Mbappé, mais c'est pas lui dont il faut parler. Là, les cartes à jeu, c'était ni pour Marseille ni pour l'OM, c'était justement pour des joueurs du banc parisien qui ont la chance, tels que Vitinha et Gonzalo Ramos, qui marque et on parle que d'Mbappé, les gars, faut se rendre compte d'un truc. Et au bout d'un moment, on devient des experts d'Mbappé, mais ça veut rien dire. Il faut au bout d'un moment aussi porter un peu l'oreille et se concentrer sur des joueurs qui jouent leur football. J'ai pas fini.
S'il vous plaît.
Il y a un truc, c'est marrant. Mbappé, j'ai l'impression qu'on devient des experts, où on répète les mêmes choses sur lui. Mais juste un truc, c'est que Mbappé, il a pas marqué ce week-end.
Mais non.
Il est sorti.
Ah ben voilà.
Voilà, on va pas parler des mecs qui n'étaient pas là pendant des années. Pour moi, Gonzalo Ramos, on doit parler de lui. On doit parler de sa célébration. On doit parler de Vitinha.
On
doit
être critique sur l'Olympique de Marseille.
Ouais.
On a été critique. On devrait être plus critique dans l'Olympique de Marseille. Pourquoi il n'y a pas une grande équipe à Marseille? Dans le résultat,
on la critique toujours avec toi, Boula.
Ça a été mon club. Oui. Alors je sais ce que je parle. Non, mais... Aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de jouer à 10, de jouer contre une équipe à 10. Aujourd'hui, vous parlez de Kylian, c'est un club qui est très bien géré aujourd'hui.
Bien sûr, le Paris Saint-Germain.
Tu ne peux pas dire que c'est bien géré le Paris Saint-Germain.
Le Paris Saint-Germain est qualifié, c'est très bien géré. Championnat, Champions League, Coupe de France.
Enrique, je pense que ce qu'il fait aujourd'hui, il n'y a pas un entraîneur qui s'est imposé comme.
On attend le 8 et 9 avril.
Le 8 et 9 avril, Bolot et Robolot.
Avant de retrouver le basketball avec HD qui va nous rejoindre justement.
Je disais ça de manière ironique, mais c'est vrai qu'un peu partout, je vois le sujet Mbappé sur un match où il a pratiquement pas joué. Moi, c'est simple, j'ai pas vu le match et je peux vous dire exactement tout ce qu'il a fait du match. À un moment, je crois qu'il s'est assis sur un banc, je crois qu'il a pris une gourde. Ouais. Après, je crois qu'il a froncé un peu les sourcils, il a regardé l'écran géant.
Il y a un poste, il a pas fouillé quelque chose.
Et donc, franchement, pour moi, ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'on ait une analyse du jeu de Gonzalo Ramos. Comment il a pu marquer ce but-là à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que cette énergie parisienne, elle se soit libérée? Et c'est ça les vrais sujets. Gonzalo Ramos, pour moi, il a saisi une opportunité. Il y en a d'autres qui sont passés à côté. On parle de Colomwani
au départ aussi. Voilà, Vitinha.
Tout à fait.
C'est un grande classe.
Si j'entends bien là, Gonzalo Ramos doit être titulaire à la place de Kylian Mbappé maintenant dans l'effectif du Paris Saint-Germain.
C'est incroyable ça.
Excuse-moi,
je vais poser une question aussi.
Allez, vas-y.
Si t'as un joueur sur ton effectif qui a beau être ton meilleur joueur, qui passe à côté de son match, et si toi tu penses en tant qu'entraîneur qui analyse le match, qui connaît le football et qui les voit tous les jours en entraînement, tu t'es dit bah tiens, j'ai tel joueur qui pourrait me débloquer une situation, et malheureusement c'est lui qui doit sortir pour pouvoir mettre tel joueur, pour pouvoir faire différemment et surprendre l'adversaire. Tu le fais ou tu le fais pas?
Je le fais, mais je l'aurais fait dès la première minute, dès la composition pour le match.
Potentiellement il est capable de créer des équipes. Tu vois que lui à la fin il n'arrive pas à faire la différence et que du coup tu pars sur une solution, tu le fais en cours de match et en plus tu lui économises 30 minutes de ton jeu, tu peux pouvoir récupérer, être plus prêt pour les grosses échéances qui arrivent du côté du Paris Saint-Germain.
Franchement, si c'est pour ça, je l'aurais aimé pas voir Kylian Mbappé titulaire ce soir.
Mais donc tu viens te contrôler.
Mais HD n'en pense quoi de ça. Le Paris Saint-Germain, Ramos, Vitinha aussi, Mbappé. Bonsoir, comment ça va?
Je suis fasciné par notre capacité sur un sport collectif à parler d'un individu et de s'acharner à parler d'un individu alors qu'on est censé parler d'un sport collectif. Mais c'est la même chose en basket, ça fait la transition.
Je
trouve qu'on a Mbappé, faut le laisser un peu tranquille.
Malheureusement, et aussi Mathieu, ils ont pas tort.
On tire des Américains, c'est normal.
On tire des
la politique américaine.
Laisse la politique où elle est, tranquillement. Nous, on est dans le terrain du sport.
Ouais. Le problème, c'est qu'on parle de Kylian Mbappé parce que pendant 10 ans, il a porté le club, en fait. Mais c'est vrai.
Si on dit qu'on parle trop de Kylian Mbappé, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête d'en parler, a priori.
Il y en a eu des grands joueurs.
Il faut m'arrêter de dire que Luis Enrique, c'est le meilleur coach. J'ai l'impression maintenant.
Il a fait du bien pour le moment.
Non, on en sort trop.
Loin devant Ligue 1,
il a encore rien gagné,
qualifié Coupe de France et qualifié Champions League pour le moment.
Ouais, qualifié.
Ben oui.
Contre un ancien club, on verra.
Ouais. On va voir.
Comment
on
va se comporter.
Ouais. On verra bien en tout cas.
C'est tout vu.
Voilà. Boula et le C, c'est Nostradamus. Pourquoi pas. La bonne année, la bonne saison pour le Paris Saint-Germain, Boula. On l'espère pour le football français. Là aussi, année des JO 2024 à Paris.
Surtout pour mes deux beaux-frères, ils sont pro PSG.
Ah ben voilà. Et voilà. Pour les beaux-frères de Boula qui nous écoutent, à mon avis, ce soir. Voilà.
Mais le match de Bill, il a été complètement faussé. T'as l'arbitre qui sort Bellardo, il lui met un rouge directement.
Il y en a eu beaucoup qui ont été faussés des matchs.
Il dit que c'était une action de but, alors que
le premier, c'est ni le dernier.
Ça tombe à la moitié du terrain, en fait. Oui. C'est complètement. Non, mais c'est incroyable, quand même, ce qui s'est passé.
C'est incroyable. Alors, on va écouter, justement, HD avec le basketball. HD, il s'en est passé des choses aussi. Pas qu'on a NBA, hein.
Bah oui, en fait, pendant que les yeux étaient focalisés sur Marseille, moi, j'étais de l'autre côté. J'étais dans le nord, à Villeneuve-d'Ascq.
C'est ça.
Donc, pour suivre un match de Ligue féminine de basket. Et puisqu'il faut savoir que en basket cette saison en France, la meilleure équipe elle est dans le nord, donc c'est Villeneuve-d'Ascq.
Et oui, et Tom Sport y était justement, voilà, du côté de Villeneuve-d'Ascq.
On y était en très bonne compagnie, il y avait du monde. Enfin, le basket, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, c'est des salles qui sont relativement pleines en France. Il faut le souligner, puisque quand on parle de sport, il y a chaque week-end il y a 3000-4000 spectateurs qui sont présents dans ces salles là et donc voilà. Et donc pourquoi on était à Villeneuve-d'Ascq, c'est parce que c'était un match qui était important pour elles, puisque ça leur permet de terminer première de la saison régulière, donc dans cette ligue féminine de basket. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça confirme la très bonne saison de Villeneuve-d'Ascq, puisque elles sont également en demi-finale de la Coupe d'Europe, donc l'Euroleague. Et donc c'est une performance historique pour ce club. Il faut savoir que ça fait 20 ans qu'un club français n'a pas remporté cette Euroleague. Chez les garçons, ça remonte encore plus loin, puisque c'est comme en football, c'est à jamais les premiers. Limoges l'a remporté en 93,
ça.
Et depuis, plus personne n'a remporté ce titre. Donc voilà, donc c'était important pour moi de souligner cette réussite de Villeneuve-d'Ascq, même si il faut rappeler, en basket, à la différence du football, le titre se joue en play-off. Donc voilà, il y a une phase finale avec les 8 meilleures équipes de la saison. Et là, a priori, Villeneuve-d'Ascq aura un peu plus de difficultés, puisqu'il y a des clubs comme l'Asvel, comme Bourges.
Elle a rendez-vous avec son histoire, c'est bien ça.
Exactement.
Cette équipe.
Villeneuve-d'Ascq, elle a remporté une fois le titre en 2017. Et là, ce serait le deuxième titre. Et disons que voilà, il y a un peu cette culture petit poucet, que ce soit sur la scène européenne ou sur la scène française. On a rencontré un peu le staff de Villeneuve-d'Ascq, et notamment Rachid Méziane, qu'on espère avoir prochainement dans cette émission, qui fait un très bon travail à Villeneuve-d'Ascq depuis quelques années, avec un effectif où il y a à la fois des jeunes françaises prometteuses. Donc je vais citer le nom de Janelle Salaoun. Les fans de basket connaissent peut-être aussi son frère Tidjane Salaoun, qui fait partie des Français qui vont peut-être être draftés pour la saison prochaine.
Bon, pourquoi pas
en NBA. Ouais. Et voilà, plus des bons choix au niveau des américaines, des joueuses capées comme Kennedy Burke, comme Shevante Zelos aussi, qui a déjà gagné le titre en WNBA et qui est venu renforcer cette équipe de Villeneuve-d'Ascq. Donc voilà, donc à suivre pour la fin de saison. Et aussi pour les fans de basket, regardez ce Final Four d'Euroleague, où elles auront quand même très fort à faire, puisque les favorites pour le titre, c'est plutôt les clubs turcs, et notamment le Fenerbahçe
en Turquie. C'est ça, on le rappelle. Du 12 au 14 avril.
Beşiktaş n'est pas présent dans ce Final Four. Donc les deux clubs turcs, c'est Fenerbahçe et Mersin, donc c'est dans le sud-est de la Turquie, donc qui accueille ce Final Four. Mais très clairement, les favorites, c'est le Fenerbahçe, qui sont notamment coachés par une coach qu'on connaît très bien en France, parce que c'est Valérie Garnier, l'ancienne sélectionneuse de l'équipe de France. Il y a Emma Misman, qui est peut-être la meilleure joueuse européenne actuellement, qui est joueuse belge, qui a déjà gagné aussi le titre en WNBA. Et donc voilà, et donc Villeneuve-d'Ascq va aller là-bas, ils vont jouer Prague en demi-finale, et soit ils font un exploit, soit de toute façon c'est déjà très très fort pour le club nordiste cette saison.
Allez Mathieu, avec Karim aussi, à l'action.
Est-ce qu'elles ont elles sont pas favorites, mais sur un match ça se joue.
Oui, je pense que sur un match Villeneuve-d'Ascq peut battre Prague. Après, il y a aussi une question de maîtriser l'événement, parce qu'on sait que dans les clubs de l'Est, c'était déjà le cas en quart de finale, où elles étaient allées jouer en Hongrie. J'arriverai pas à dire le nom du club, mais c'était des ambiances très très chaudes.
chaude. Quand on discute avec les supporters de Villeneuve-d'Ascq, ils ont notamment un souvenir où il y avait Galatasaray qui était venu dans le nord. Et en fait, les tribunes qui sont pas toutes fixes, il y en avait certaines qui avaient vibré. Voilà, parce que les supporters de Galatasaray étaient très,
ils sont chauds,
très enthousiastes et voilà, ils avaient dû faire venir les CRS. C'était vraiment une ambiance chaude. Et donc il y a aussi cette question de savoir maîtriser l'événement dans une ambiance qui peut être parfois hostile. Et donc de savoir aussi prendre en compte ces aspects-là dans la capacité à gagner un match.
Oui, Karim.
J'avais une question moi pour HD aussi. Est-ce que tu as l'impression que ça soit au niveau du basket masculin et féminin, qu'il y a avec des nouvelles salles qui ont été créées comme l'Adidas Arena, la FDLC à l'Asvel, etc., vers Lyon, etc. Et même que le président Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, veut racheter la FDLC Arena de l'Asvel. Est-ce que tu penses qu'il y a, en France, on est en train de prendre en considération le basket, que ça soit féminin ou masculin, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une, même dans les médias, on en parle plus. Il y a une certaine, même au niveau sportif, il y a une certaine évolution. Il y a un développement qui est en train de se faire par rapport au basket.
Crois-moi,
il y a cette évolution. Parce qu'il y a des vagues. Il y a des vagues, c'est-à-dire que dans les années 90, par exemple, les clubs français étaient beaucoup plus présents en Euroleague. Mm-hmm. On parle beaucoup, par exemple, de Super League en football. C'est déjà un peu le cas en basket.
Avec Cholet.
Non. C'est quand je parle de Euroleague et de Super League, c'est des clubs comme le Real Madrid, comme l'Olympiakos, le Maccabi, les FES Istanbul. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une logique où vous avez des équipes avec un ticket d'entrée et qui font une compétition entre eux. Donc le basket en fait européen essaye de copier un peu la NBA sur plein d'aspects. Il y a des clubs qui essayent de se raccrocher à cette logique là comme Monaco. Et après, au niveau du basket, le basket en France a toujours été un sport populaire. Après, la question, c'est est-ce que les clubs français sont en capacité d'avoir les moyens financiers pour pouvoir être au niveau des clubs turcs, des clubs russes, des clubs espagnols, qui aujourd'hui sont les principales
sciences. Mais c'est ce qui est en train de se faire là, non ?
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le basket français est un basket d'exportation. Ouais. Vous avez des joueurs comme Wembanyama, comme à d'autres époques, Tony Parker, Batum et compagnie. Enfin, Rudy Gobert, par exemple, qui fait une saison exceptionnelle avec Minnesota. Mais le basket français est un basket d'exportation, c'est-à-dire qu'il n'est pas très fort en club, mais qui, par contre, en sélection, est capable d'aller chercher, par exemple, des médailles olympiques. Mais les filles, la dernière fois, elles ont été médaillées olympiques.
Et tu parlais de Monaco. Monaco, qui est actuellement troisième de Roli cette saison,
c'est ça.
Et qui a égalité avec le deuxième, qui est le Panathinaikos, si je dis pas de bêtises.
C'est ça.
Mais ça reste le Real qui est loin devant. Et le Real, ils ont la meilleure équipe d'Euroleague.
Pourquoi aussi ? Et j'ai l'impression que justement tu parlais des clubs qui essayaient de s'adapter en France et qui avaient encore beaucoup de mal. Est-ce que Monaco n'est pas l'exemple justement de ceux qui essaient de s'intégrer le plus au système européen, dans le sens où ils ont essayé de mettre en place deux équipes, ou en tout cas une équipe et demie, une équipe qui joue en Ligue française et une équipe qui joue en Euroleague, histoire d'avoir un meilleur turnover et d'avoir des joueurs plus frais pour arriver aux grandes échéances européennes. Est-ce que c'est vers ça que se tendent les clubs français, aussi bien féminins que masculins ? Est-ce que c'est la clé pour pouvoir performer en Europe pour les clubs français?
Je pense qu'il y a deux clubs qui sont sur cette lignée-là. En France, c'est Monaco et le Paris Basket, effectivement, avec l'Adidas Arena. Et effectivement, Monaco, quand on regarde l'effectif, ils sont partis chercher des joueurs, par exemple, qui ont joué NBA. Je pense par exemple à quelqu'un comme qui fait pas une grande saison, mais c'est quand même un joueur important. Donc Monaco, oui, effectivement, essaye. Après, chez les filles, on n'est pas du tout encore dans cette logique-là. Donc simplement, en tout cas, pour les fans de basket, moi j'incite, c'est 12 et 14 avril.
Merci,
Final Four. Et on essaiera d'avoir après ce Final Four.
Allez, c'est super.
Je voulais juste demander par rapport à.
On a plus le temps.
Par rapport à Saint-Ouen, avec.
Saint-Ouen, Saint-Ouen, Aubert, on reviendra. T'inquiète pas, on encardera. Oui, mais ben on a plus le temps. Voilà, on n'a plus le temps. Eh ben non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, on reviendra dessus. On reviendra. Il y a la VAR aussi du côté de Lyon face à Valenciennes. Un grand merci à toute l'équipe. Allez, rendez-vous dès demain.
Retrouvez Time Sport, podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, la rediff. Parler, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 22h minuit, confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonsoir, chers amis, et bienvenue sur Beurre FM. Il fait très chaud dans les studios anglais tout de suite. Je ne retrouve plus mon éventail que tu m'as fabriqué avec beaucoup d'attention, beaucoup de gentillesse. Oh, il doit être dans le fond de mon sac, dans mon fouillis. Un sac de filles rose en plus. Je m'adresse à un Solal qui me fait des éventails. Ah ouais, sur mesure. Vous vous rendez compte? Alors ça, c'est, ça va être une relique, hein. Plus tard, ça va valoir de l'or, hein. Quand il va être connu, vous savez, son nom partout. Solal, Solal, etc. Le, je ne sais quoi. Je ne sais pas ce que tu deviendras, mais tu deviendras un grand bonhomme. Peut-être que tu seras à la tête d'une radio. Je te le souhaite. Inch'Allah, amen, amine. Voilà. Bienvenue à toutes et à tous. Arrête de faire l'arrogant. Il est comme le fieur, là. Il est ton bonnet. Bon, allez, allez. Assez plaisanté. On va passer aux choses sérieuses. Chers amis, bienvenue à toutes et à tous. Quelle joie, quel bonheur de vous retrouver en ce... Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est mercredi, déjà. Comme le temps passe, mon Dieu. Mercredi, non, pas mercredi, parce que c'est mercredi. Non, c'est parce qu'on est le 20 mars. C'est quand le printemps? Le 21 ou le 20? C'est le 21? C'est demain? Ah, demain, à partir de demain. Bah écoutez, on va sortir les tenues légères d'été. Ah ouais, ouais, je suis comme ça, moi. Qui pleuve, qui vente, qui neige. 21 mars, c'est printemps. Drlouche, fille. Bon, bah écoutez, quelle joie, quel bonheur, oui, de vous retrouver sur votre la meilleure des radios. Beurre FM, bien sûr, chers amis, avec votre animatrice préférée, moi-même, Vanessa, comment, oh là là, comment je me la... Hein? Bon, je dirai pas la suite. Et avec votre réalisateur préféré, Solal.
Buonasera, ben merci déjà Vanessa, j'en mérite pas autant.
Merci.
Écoute, écoute, je m'inspire de toi au quotidien, donc si déjà j'ai la chance de faire ce que tu veux excuse-moi, toute ma vie, je serais déjà très heureux. Hein, on en parlait avec mes amis tout à l'heure, c'est vrai que
c'est
déjà,
vrai?
Je suis super heureux d'être ici. Déjà de faire de la radio, je suis très heureux, mais que ce soit ici, dans cette radio, avec ses belles couleurs, sa mixité, son accueil, sa bienveillance, sa richesse aussi, et sa variété, franchement, c'est que demander de plus quand on est un minimum sensé dans sa vie et que ça nous tombe dessus comme ça. Faut vraiment foncer. Donc, je vous invite, chers amis, quand vous avez une passion, déjà aller à fond.